tout le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi. Le combien sommes-nous ? C'est pas possible. Tout le mercredi, je cherche. Le 13 janvier 2016. Il est 14h04 à la pendule de Radio Canyon. Mon Dieu, qu'il est tard. Christophe Rollin au micro. Gérald est bien dans la place aujourd'hui. Émission numéro, je sais plus, 86, 87, un truc comme ça. On approche des 90, hein, Gérald. Et nous avons un invité aujourd'hui. Quel invité ? Un artiste poétique. Artiste poétique, poésie contemporaine, artiste rare, avec un nom rare, Pierre González Isner. Il va nous en parler. Voilà, c'est comme d'habitude le programme pour cette émission. Pendant une heure, nous devisons jusqu'à 15h, nous parlons nous allons parler de notre invité, Pierre González Isner. Nous allons également parler de poésie contemporaine, puis de différentes choses. Et puis voilà, nous allons aussi aller, pourquoi pas, un très léger hommage avant d'écouter un art poétique. Gérald a dégoté une superbe version avant d'écouter cet art poétique. Rendons un petit hommage. David Bowie, parti, je crois, dimanche, me semble-t-il, dans la journée de dimanche. On a appris cela lundi. Donc écoutons sur l'album Lost Highway, enfin l'album sur le film, la bande originale. Eh bien, la dernière chanson est assez belle. On entend bien sa voix. Voilà, petit hommage. Nous sommes sur, et vous êtes sûr, vous avez tout à fait raison, Radio Canu, le 102.2 de la bande FM. Et puis, vous pouvez également nous écouter, pourquoi pas, sur Internet. C'est radiocanu.org.
Travel on, I start to believe, if I were to bleed, in sky the man chases, hands held high, the cruise beyond, cruise me, babe, a plunge beneath, beyond, beyond, beyond.
Amour. ton verre soit la bonne aventure et pars au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le thym et tout le reste et littérature et tout le reste et littérature.
Bonjour Christophe.
On dit bonjour, bonjour.
Bonjour Pierre González Isner. On va dire Pierre, bonjour, ça sera plus simple.
Bonjour Christophe aussi.
Vous nous expliquerez
chers auditeurs.
Très bientôt le sens de ce complexe nom.
Patronyme.
Oui. Patronyme.
Isner qui se rajoute à la fin avec
nous
en plus
sommes
un R majuscule.
Radio Canu dans son jus.
Voilà, toujours dans son jus.
Et je vais vous expliquer mon patronyme et aussi son extension, quoi, en quelque sorte, Isner. Effectivement, c'est peut-être ce qui rend le nom un peu plus inhabituel, parce que Pierre, bon, c'est un peu courant quand même. González, c'est un peu Dupont du côté de la Méditerranée. Effectivement, un S à la fin, bon, c'est d'origine espagnole. C'est une question d'écrire sur les registres.
À l'état civil.
C'est ça, d'état civil, oui, tout à fait. González, je sais pas, tiens, qu'est-ce que je vais mettre, un H aujourd'hui ou un H? Moi, j'ai mis un H, tiens. Enfin, bref. Enfin, bon, français depuis plusieurs générations maintenant, nous sommes sur Radio Canu.
Très bien, oui.
Donc, effectivement, Isner, pourquoi? Alors, bon, Ner, c'est une signature qui m'est venue un peu comme ça, N-E-R, pour signer des choses qui étaient un peu de l'ordre de, on va dire, de graffiti, soyons modestes, parce qu'il y a des très, très grands et très beaux graffeurs sur Lyon. Moi, je fais plus de la poésie. Et ma poésie murale, elle a été quand même relativement succincte. Enfin, je me suis surtout attaqué aux affiches publicitaires à une époque, notamment dans le métro parisien, mais pas que.
Sort de pub, alors.
Ener, c'est cette signature à laquelle j'ai, oui, dans laquelle je rends hommage, enfin, que je garde, que j'ai gardé dans mon nom d'artiste, Pierre González Isner, Isner. Alors là, on peut voir un hommage à la BD, à une des BD de notre enfance, Is No Good, hein. Donc, jeu de mots, je sais plus, c'était pas Goscinny d'ailleurs, hein, non, c'est Goscinny. Hein.
Ah, ou scénario, oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Donc, voilà, cette espèce de francisation que j'ai, sur laquelle j'ai joué plusieurs fois d'ailleurs, de l'anglais. Et puis l'autre chose, c'est le R majuscule à la fin, N minuscule, R majuscule, qui rend là, qui parle des écritures dans les autres sens que celui qu'on a adopté pour le français. D'ailleurs, Christophe, cette question de verser dans un sens et verser dans l'autre.
J'ai perdu ce nom, une écriture, je crois, voilà. Une écriture grecque, mycénienne, je ne sais plus, enfin non, c'est pas grec, ça a précédé les Grecs, donc on parle de 500 ou 1000 avant Jésus-Christ. L'écriture boustropédion, je crois, boustropédon, qui consistait à, on écrit, on commence à
dans
gauche,
un sens,
on va à la fin de la ligne à droite, et puis une fois qu'on passe à la ligne suivante, et ben on reprend juste dessous, donc on reprend à droite pour aller jusqu'à gauche, et puis arriver à gauche.
Comme un palindrome.
Une sorte de
dramatique.
Une sinuosité.
Un peu dans tous les sens.
Chers auditeurs, vérifiez, mais il n'y aura pas de cadeau ni de place à gagner.
Qui viendrait de l'agriculture. Exactement, le laboureur qui, lorsqu'il suit son bœuf, le terme boustro, pour faire un sillon, pour creuser un sillon, et bien, quand il arrive au bout d'une tranchée, ben voilà, il tourne.
Dans le sens.
Oula, dites donc, il retourne toi, et puis on continue, voilà, dans l'autre sens, et on descend. Enfin bref, c'est-à-dire, si on le lit à l'envers, donc ner, ce serait reine, c'est ça? Enfin, c'est.
Eh bien, non, parce que là, pour le coup, je joue un peu sur les deux, je reste dans le sens habituel, ner. Et puis la majuscule vient à la fin pour rappeler qu'il y a d'autres sens de circulation de l'écriture. Donc je pense que oui, effectivement, je crois que le poète, je crois qu'on a des petits soucis de micro.
Non, mais c'est parfait. C'est
le poète, n'est-ce pas? Les poètes se peuvent d'évoquer d'autres modes d'écriture, disons, d'imaginer un peu comme ça, des différentes façons de versifier. Ouais, effectivement.
vous parlez maintenant, on aurait pu vous entendre le samedi 21 novembre dernier à 18h, nous aurions pu vous entendre, enfin même d'ailleurs, enfin, des gens vous ont entendu, ça oui. C'est évident, mais Gérald, y étais-tu toi?
J'y étais, c'était un samedi après-midi à la bibliothèque du 2e, on avait fait l'annonce dans l'émission peut-être 4
heures. On en avait parlé effectivement.
On en a parlé et
c'était
Pierre
une rencontre.
Était prévu, il aurait dû venir déjà, c'est pour ça que je suis très content qu'il soit venu, et puis au dernier moment il y a eu un contretemps, il n'a pas pu venir, mais bon, il est là aujourd'hui, donc c'est très bien.
C'était créé, c'est résisté, c'est ça?
C'était le, alors c'était dans le cadre d'un festival, on va en reparler un peu.
Une série, oui, effectivement.
Tire-ta-tongue,
c'était Tire-ta-langue, Tire-ta-tongue, la tongue étant une langue, elle avait joué là-dessus, Béatrice Bréraud, donc, qui organisait cette rencontre. Elle-même poète, d'ailleurs, il faut le souligner, dans le cadre de langage ou littérature et résistance.
Voilà, c'est ça. Littérature et résistance.
Littérature et résistance.
Redonner du sens aux mots qui sont tellement galvaudés.
Voilà, de la bibliothèque.
Du deuxième, du arrondissement de Lyon.
Non, mais même de l'ensemble des
bibliothèques réseaux. En présence de l'éditeur d'Aldante.
Oui, la rencontre poétique s'est faite en présence de Stéphane Novak qui lisait un extrait de Glose, son dernier recueil, édité chez Aldante, ou Aldante, éditeur qui a été longtemps marseillais, qui habite à Marseille, qui est un grand éditeur de poésie contemporaine.
Et dans lequel vous avez publié quelques ouvrages d'ailleurs.
Non, moi j'ai pas publié chez Aldante, j'ai beaucoup auto-édité, et puis effectivement il serait temps que je lui propose à Aldante par exemple quelques ouvrages.
Vous avez évoqué Marseille à l'instant, il y avait d'autres Marseillais, je crois, qui étaient présents à cette rencontre. Il me semble que c'était Laurent Covert, je crois, enfin présenté comme étant Marseillais.
Laurent Covert est l'éditeur Aldante, c'est ça.
Ah d'accord, excusez-moi, je mange le nom. Voilà,
engagé.
Stéphane Novak, effectivement.
Motivé, et puis, c'est quelqu'un de très bien, Laurent Covert. Ouais.
Donc des intervenants marseillais lors de cette rencontre qui était performante.
C'est un duel,
Marseille-Lyon. Je lis échange-confrontation quand même. Échange-confrontation.
Oui, mais.
Il y avait également Jules Desgouttes qui était présent pour, notamment pour représenter ce collectif Abiabo. Ça
tout
fait encore
fait.
D'autres choses que vous pouvez nous dire. C'est très bien ça, Pierre.
Tout à fait. Jules est mon collègue, un de mes collègues au sein du collectif Abiabo, collectif que j'ai fondé il y a quelques années maintenant, en 2005, je crois, un peu après le démarrage de la friche RVI. Donc,
2002, je crois, ce démarrage, c'est ça?
C'est ça, tout à fait, bravo. Et lieu où on a pu justement explorer.
Où est-ce ce lieu? Parce que j'ai vu c'est sur l'avenue Lamartine, c'est ça je crois?
C'était avenue La Cassagne, et puis maintenant donc les anciennes usines Berliet qui étaient devenues RVI, Renault Véhicule Industriel, etc. Après avoir eu une existence de plusieurs années de friche, 8 ans à peu près.
Plein d'ateliers.
On déménageait, on va dire ça comme ça. Mais très partiellement dans la friche Lamartine. Voilà.
Mais alors où est-elle cette autre friche Lamartine?
La friche Lamartine, les rues Lamartine, un autre poète très célèbre, n'est-ce pas?
Mais où est-elle cette rue? Moi,
peut-être qu'il y a plus de temps de Verlaine quand même.
Lamartine, c'est un poète, disons, qui a plusieurs facettes. Voilà, on va pas faire l'émission sur lui, mais...
Non.
Et donc, qui a eu des facettes très, très intéressantes. Mmh. Et cette rue Lamartine, elle est vraiment pas loin de l'avenue La Cassagne. On n'était pas loin de Montchat, on est encore plus près de Montchat, quoi, on va dire, dans cette friche Lamartine.
Et alors là, nous nous égarons, non plus dans les rues de Lyon, mais sur le fil, le propos de l'émission. Voilà. Vous évoquiez à l'instant, Pierre Gonzalez, vous parliez de Abiabo, avec donc un slash entre les deux. Enfin,
c'est
disons,
ça. Alors, autre jeu avec le franglais, on va dire, puisque Abi slash Abo, si on le déploie, veut dire art be in, art be out.
D'accord.
Pour l'avoir plusieurs fois testé auprès d'anglophones, la réponse c'est what.
C'est deux acronymes, un double acronyme.
Oui, voilà. Ça doit être donc de l'assez mauvais anglais, mais le sens le fait que ça soit une langue un peu universelle nous y autorise. Le sens est que l'art est impliqué, mais l'art est aussi dégagé des contingences. C'est un des sens possibles de in et de out. Hein. Mm-hmm. ou dans l'actualité, in, et puis en prenant d'autres reculs que celui de l'actualité, oui, etc., c'est, etc.
C'est le sens pour notamment ce festival, festival de théâtre, festival d'Avignon, il y a le in et le off, voilà.
Voilà,
on peut dire in fait, out ou in off ou on
ça,
off.
C'est voilà, ça, on off, il y a tout ce jeu-là avec aussi l'électronique, l'informatique, etc.
Et ce collectif, vous publiez, vous produisez, vous écrivez.
On a fait,
écrivez.
On a fait, puis on continue à faire différentes choses, donc c'est un collectif pluridisciplinaire. Et ce qui nous réunit, c'est la poésie, mais disons la poésie dans son esprit, on va dire, et puis aussi dans le fait qu'on peut trouver de la poésie dans tous les modes d'expression.
Hein. Et en art vivant. Hein.
Et en art vivant,
avec
bien sûr.
Très collaboratif. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas le mot collaborer. On l'a appris la semaine dernière, mais c'est pas grave. Collaborer, ça veut dire mettre le travail en commun, hein, on va dire, sans connotation autre. Donc, vous avez travaillé justement, voilà, participatif, si vous voulez. La dernière fois qu'on s'est vu, Pierre Gonzalez, c'était dans le cadre de ce Tirtatong.
Oui.
Et vous m'avez gentiment offert un livre CD que j'ai sous la main, qu'on va pouvoir écouter dans quelques minutes.
Plus d'amour et moins de travail papier.
Voilà, un très bel objet, alors qui allie des musiciens...
Antoine Mermet.
Voilà, des graphistes.
Excellent musicien.
Et c'est un livre CD qui est assez beau déjà, ouais, en tant qu'objet.
Ouais, bah le graphiste qui a fait la maquette, donc, et on l'a édité au sein du collectif Abiabo, Jérôme Dupré-Latour, pour le citer, fait partie de Abiabo, a fait un très très beau travail, et effectivement il a eu cette très bonne idée de froisser une feuille de papier qu'il a utilisée un peu comme une rose, donc on a l'image du papier et de la rose qui peut être celle de l'amour, donc ça va très bien avec le titre. Et donc, je rappelle, plus d'amour et moins de travail papier.
Avant d'en parler, peut-être qu'on pourrait écouter une piste. Laquelle ?
Oui, oui. La première.
Hey, moi, j'avais encore peut-être une question pour présenter encore l'invité, ou disons, ça pourra éventuellement appartenir à ce deuxième temps tout à l'heure, qui sera l'actualité ou différentes publications, enfin du moins des choses qui se produisent ces jours-ci. Moi, je vous questionnerai volontiers, Pierre Gonzalez, sur votre écriture de ce mot qu'on a évoqué plusieurs fois depuis le début de l'émission, poète, poésie. Là, je vois écrit bientôt de nouvelles aventures d'espace-temps poétique, mais c'est écrit poétique, avec un tréma sur le i, l'accent aigu
tout
sur le
fait,
e. Il y a quelque chose là pour
terminer
peut-être.
Ça risque de nous entraîner un petit peu long.
On a le temps, 14h20.
Est-ce qu'on le ferait pas après
peut-être, oui. Ah, très bien.
On met la question en suspens.
Bon. Alors, qu'est-ce que nous écoutons exactement, Gérald ?
On écoute la piste 1 de ce très beau livre CD, Plus d'amour et moins de travail papier, créé dans un travail collectif, on va dire, par Pierre Gonzalez, ici présent, et un saxophoniste, etc.
Antoine Mermet et Jérôme Dupré-Latour pour la mise en forme du livre CD.
De ce que le monde a besoin vraiment, est plus d'amour et moins de travail de papier. La distance entre deux cœurs n'est pas un obstacle, plutôt un grand rappel de juste, comme l'amour vrai fort peut-être. L'amour est la beauté de l'âme. Les milles de bidons vous séparent vraiment des amis. Si vous voulez être avec quelqu'un, est-ce que vous aimez ? N'êtes-vous pas déjà là ? Tout supérieur. Pour apprécier la saveur de la vie, prenez les grandes morsures. La modération est pour des monks. L'espoir est comme une route dans le pays. Il n'y avait jamais une route, mais quand beaucoup de gens marchent là-dessus, la route hérite de l'existence. Qui aime ainsi croit l'impossible. pouvez pas être un vrai pays à moins que vous ayez une bière et une ligne aérienne. Il aide si vous avez un certain genre d'équipe du football. Ou quelques armes nucléaires. Mais pour le moins, vous avez besoin d'une bière. L'amitié vraie vient quand le silence entre deux personnes est confortable. Traitez chacun avec la courtoisie, même ceux qui sont grossiers à vous. Pas parce qu'ils sont gentils, mais parce que vous êtes. Une personne heureuse n'est pas une personne dans un certain ensemble de circonstances, mais plutôt une personne avec un certain ensemble d'attitudes. L'amour est la vie, et si vous manquez l'amour, vous manquez la vie. Les défis de la vie ne sont pas censés vous paralyser, ils sont censés vous aider à découvrir qui vous êtes.
Des manuels d'Épictète, des fois, philosophie pratique.
C'est ça.
Découvrir qui vous êtes, nous reprenons l'antenne. C'est rare, Gérald Lajoie, que le document sur lequel je peux mettre la main a été tiré à 200 exemplaires à Lyon en juin 2014, donc c'est assez récent. Habillé à beau, Art Be In, Art Be Out, 28 rue Lamartine, 69 003 Lyon. Il y a même un site internet, HTTP, le classique, habillabeau.org. Pierre Gonzalez, pourriez-vous donc peut-être commenter un peu ce qu'on vient d'écouter? Tu me demandais, Gérald, moi je
c'est vrai d'écouter.
À la lecture, comment nommer ça, des aphorismes ou des...
Il y a vraiment de ça, pratique. Et puis une syntaxe un peu perturbée.
Ah oui.
C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a, en fait, il y a une généalogie à ce poème. Elle est relativement simple. Certains ont pu le reconnaître, ce qui démontre une culture informatique quand même qui remonte à quelques années. Il y a derrière ce poème un spam hyper long que certains ont reçu, je ne sais plus, on va dire dans les années 2000, mais c'est très vague. Hein. Mm-hmm. Qui a donc circulé, qui est en anglais, et où on retrouve effectivement toute une série d'aphorismes comme ça, dont certains sont tirés, qu'on peut reconnaître chez Épictète ou ailleurs. Hein. Mm-hmm. Et moi, je l'ai travaillé dans un procédé informatique, on va dire, lié justement à cette généalogie, le fait que ça soit un texte qui vienne d'Internet. Mm-hmm. En le faisant passer chez mon pote, chez notre pote à tous, Google Trad.
Ah, oui, alors.
Et donc, qu'il s'agit quand même un peu d'utiliser.
Ah, c'est un faux ami.
Détourner, voilà,
là, un faux ami. Pour le coup, Google Trad, c'est un faux ami.
On est tout à fait dans les faux amis, les synonymes, les faux homonymes, etc. Et donc, on est dans un travail de déplacement du sens et de la syntaxe aussi, qui passe par le biais du traducteur automatique qui induit ce décalage, quoi.
On pourrait dire la moulinette, presque.
Oui, carrément. On pourrait dire la moulinette. Et en plus, c'est un outil qui évolue. Donc, cette version de Google Trad, elle n'existe plus, quoi. On ne peut plus la retrouver. Donc, ce texte, je ne pourrais pas le réécrire de la même manière, parce que même si j'ai retravaillé derrière, je n'aurais pas eu la même base, enfin, la même matière modifiée, quoi. Enfin, je n'aurais plus.
D'accord.
Voilà. Et donc, c'est effectivement. J'aurais moi-même, et surtout à cette époque, pas écrit de moi-même un poème sur l'amour comme ça. Donc, c'était bien que c'est bien que je fasse que j'ai écrit ce grand poème sur l'amour, on va dire, avec cet énorme décalage, en fait, cette énorme prise de distance induite par la machine. Tu parlais de machine.
Là, moi, ça me faisait penser à un robot qui buguait, un Android en 2050.
Voilà, tout à fait.
Après une bombe nucléaire,
voilà,
par
voilà,
exemple.
C'est, donc,
qui bon, marcherait encore à moitié, qui radoterait.
Ouais, tout à fait. Et bon, on sait que le propriétaire de Google est un trans...
Humaniste,
tout à fait, et que pour lui, le monde de la modification homme-robot, cet amour des robots, qu'on peut trouver aussi évoqué chez Asimov par exemple, il y croit, enfin il y adhère complètement. Ah, oui, oui. Donc voilà, c'est là la mise en abîme de ce poème, elle a son arrière-champ quoi, en quelque sorte. Il est aussi il est beaucoup dans cette écriture numérique, on va dire, dans ces outils numériques, donc cette façon de versifier avec l'ordinateur quoi.
Il y a les résultats d'une contrainte, et moi je pense contrainte, je pense tout de suite Oulipo, je pense tout de suite à la tradition mathématique de cette poésie qui se donne des contraintes et qui commençait déjà à utiliser et à anticiper Pérec avec sa disparition, avant même que les outils informatiques au tout début commençaient à donner des contraintes mathématiques et numériques.
C'est une continuité sur laquelle je ne me suis pas inscrit consciemment, si tu veux, mais qui est là effectivement, qui est là très présente, quoi, on peut dire effectivement, oui.
Alors, nous avons commencé l'émission, Gérald, tu nous as permis d'écouter une version de l'art poétique de Verlaine, oui, chantée par Léo Ferré. À l'instant, vous parlez...
Je retrouvée dans des archives personnelles.
D'ailleurs, tu souhaitais un peu la commenter.
Non, pas du tout, c'était juste pour dire que les premières mises en musique de Ferré, de Rimbaud, Verlaine et Baudelaire, c'est en 1964, et là, c'est un double album, Maudit soit-il, toujours aux éditions La Mémoire et la Mer, une compilation d'un double album de 2004. Où il y a Arthur Rimbaud et Paul Verlaine avec des versions qui avaient disparu, qui étaient des archives personnelles. On l'a senti avec le grain du son, l'enregistrement qui devait être à bande avec un appareil assez rudimentaire, des bandes de travail, mais qui avaient de la force quand même.
Ah non, mais et puis l'énorme force.
Alors, sans transition avec Bowie, bien sûr. Sans doute des points communs entre Verlaine et David Bowie.
L'énorme force, Gérald, de ce titre, c'est que ça nous permet. Hop, bam, ça fait la matière une question, puisque nous avons un poète avec nous
qui vient
de parler d'un poème. Et bien, donc, cette conception poétique, si on reprend cette écriture étymologique, P-O-I, tréma, E, accent aigu, T-I-Q-E. Alors, donc, pour vous, la poésie ou bien la poésie, c'est ce qui. Enfin, non pas pour vous, mais enfin, disons, oui, si. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, que dire voilà. de la
Pourquoi
poésie ?
Pourquoi les réassocier
Oui, c'est ça. Pourquoi c'est ça. Certes faire ce terme, mais également, enfin, pourriez-vous définir,
Eh bien, parce que justement, la démarche de notre collectif Abiabo, dès le départ, et maintenant on l'affirme très explicitement, c'est écriture et intermédialité. Et qu'est-ce qu'on entend par intermédialité ? C'est-à-dire, on n'utilise pas la notion de transdisciplinarité parce que, pour des raisons... on va dire que le terme ne satisfait pas tout le monde, qu'il contient certaines lacunes de point de vue théorique pour certains, etc. Enfin, c'est un débat. Mmh. Mais en tout cas, l'écriture, pour nous, et il n'y a pas que l'ordinateur qui y concourt, il y a aussi la linguistique, la sémiologie, l'analyse du langage, la réflexion sur les outils. La notion de poésie, pour nous, elle est transversale à tout travail de recherche, donc à tout travail de recherche artistique. Donc il y a écriture quand on danse, il y a écriture évidemment en musique.
Le terme de chorégraphie d'ailleurs, c'est l'écriture du mouvement.
Tout à fait, exactement. Il y a différents types d'écriture.
Pour la musique composition, oui c'est ça.
Et l'écriture c'est la façon d'inventer le monde. Le monde s'invente effectivement pas à pas, on va dire, en marchant. Ou en tirant le socle de la charrue, en retournant la terre. Et je crois que, d'ailleurs, c'est une source d'inspiration pour moi à l'heure actuelle, les physiciens sont des grands poètes. Avec la physique quantique, on est dans des notions où on ne sait pas si on invente en quelque sorte l'univers ou si on le retranscrit. On est à la limite, justement.
On produit.
Tout à fait. Et donc, on le produit, et c'est ça le sens aussi de poésie, du faire poétique, qui est pas loin de politique, quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'on construit notre monde, et c'est un peu ça le destin de l'être humain doué de désir et de langage. De langage et de désir, il faudrait dire d'ailleurs dans l'ordre. Voilà.
C'est peut-être le propre du langage, justement, de créer... le monde, des notions...
D'écrire la vie, d'écrire le monde.
Sans rentrer dans les détails, il y a des propos de philosophes, je pense à Nietzsche, ou...
Oui, voilà.
Bon, à chaque langage, sa métaphysique, et puis toute la question, est-ce que c'est le langage qui précède l'essence des choses, ou l'essence des choses qui donne un langage ? Il y a de fortes chances que ce soit le langage qui produise lui-même des choses, d'où la question métaphysique qui varie d'une civilisation, d'une époque à une autre, en fonction de la formulation même de l'être et des choses.
Tout à fait.
Par la langue.
C'est pour le moins un rapport rapport dialectique, mais on pourrait dire même sans oublier une autre forme trialectique. Enfin non, le terme je l'ai pas préparé du tout, mais disons il faut pas oublier la notion de transcendance, même si moi personnellement je m'inscris pas du tout dans une idée disons de divinité ou quoi que ce soit.
Oui, oui, oui.
La notion de transcendance, c'est
large,
qu'est-ce qui nous traverse, quoi, qui
nous traverse, dépasse au sens large.
Oh
là non, ça suffit la transcendance. Ouais,
et certainement que cette physique quantique, elle est en quelque sorte si on veut transcendante. Bon, bref, on est un petit peu. Alors moi-même, je suis pas philosophe, c'est-à-dire que, mais j'aime bien dialoguer avec des gens qui ont la maîtrise des outils philosophiques.
Ce n'est pas mon cas du tout, mais bon, il y en a qui tiennent aussi la poésie pour le summum de la philosophie. Hein. Un vieux souvenir de lycéen.
Tu citais Nietzsche. Bon, là, on
Hegel,
est vraiment à l'intersection.
Tu disais que la poésie était le summum de la philosophie, ou là. Enfin bref.
Alors Hegel, ça, je pourrais pas.
Non, mais c'est pas grave. C'est juste pour dire
mais
que.
Mais je sais que Platon, à un moment donné, est en conflit avec le poète.
Voilà. Et ben oui, comme par hasard. Moi, il y a toute une belle histoire là-dedans qui court sur le langage, en fait.
Ouais. Mais
et le langage poétique.
C'est un philosophe poète.
Il veut les foutre dehors, je crois, non, carrément. Il me semble dans est-ce la
oui,
République
sûr,
de Platon
les
où les poètes sont chassés.
Ah oui,
allez, dehors.
Là, dans la République
la
de Platon,
dehors,
ça va
poètes.
Pas du tout. Hein, la vérité, elle est pas du tout du côté des artistes, c'est des menteurs. et effectivement, c'est au poète qui, du coup, pour lui semble clairement représenter l'ensemble, disons, de c'est la porte d'entrée de la représentation de l'image qu'il combat, quoi. Bon, voilà. Après.
Et donc lui qui veut mettre les poètes dehors, voilà, ça me permet, en employant ce mot dehors, de faire une sorte de transition. Je lis en parlant de lieux, je lis toujours sur, je mettrai en lien ce site sur le blog de Spectaculaire tout à l'heure, friche-lamartine.org, je lis cette phrase sur des lieux, les lieux intermédiaires, les hétérotopies, comme savent l'être les friches, espaces liminaires, d'ailleurs in-out, à l'orée des non-lieux en plein dans le grain du tiers paysage, sont essentiels à la possibilité d'une poésie sensible, politique, artistique, sociale. Ils sont aussi des lieux d'expérimentations et de rencontres. Nous devons aussi savoir les traverser, parfois. Hétérotopie, hein, vous tirez ce terme de...
Alors,
non pas Jean-Pierre, on s'est dit tout à l'heure, mais Michel Foucault. Est-ce que vous pourriez développer, certes, ce terme hétérotopie, mais aussi ces lieux pour revenir éventuellement à cette friche Lamartine ou à...
Sur
la conceptualisation, des choses qui étaient peut-être un peu l'écriture, tout ça, mais en termes de lieux ou de production, on a pu écouter donc tout à l'heure un titre de ce Plus d'amour et moins de travail papier. Est-ce qu'on pourrait revenir à des choses... Attention, c'est, je dis revenir comme s'il y avait une sorte d'idée péjorative. Non, c'est très intéressant d'avoir des propos qui sont en termes de concept, tout ça, mais peut-être également à côté de ça, en termes de lieux ou de réalité, enfin de choses hétérotopie. Alors
oui,
ces lieux, ces friches.
Tu me sollicites tout de suite au niveau des hétérotopies, et donc on va encore repartir dans les.
Oui, mais on va quand même revenir à quelque chose.
Bon,
de...
alors les friches en règle générale et les hétérotopies sont très liées. Et hétérotopie, effectivement, c'est Michel.
Le sens.
C'est Michel
ça.
Foucault qui a pondu ce concept. Il l'a pondu avec réticence parce que Michel Foucault est un philosophe impur, un vrai, un dur. Et il ne se lance habituellement pas dans des digressions qu'il n'avait pas mûrement réfléchi à l'avance. Et il y avait quand même cette notion qui lui était une sorte d'intuition qui le titillait, on va dire, hétérotopie, voilà. Alors c'est des lieux, topie, tétopos... différents, pluriels, hétérogènes,
possible,
qui sont pas homogènes, et c'est des lieux de passage. Et peut-être ça lui était venu à l'idée en travaillant sur les prisons, puisqu'il avait travaillé beaucoup sur les prisons.
Surveiller et punir.
Surveiller et punir, absolument. Et donc, il s'est dit, c'est quoi ces lieux, hors lieux, où on met les gens, disons, pour les retirer de la société. Peut-être c'est ça son point de départ. Et il s'est posé la question sur tous les lieux qui étaient entre des lieux clairement identifiés, notamment clairement identifiés d'un point de vue social, politique, symbolique, etc. Et il y a des lieux qui le sont moins. Voilà. Bon, alors, c'est l'en dehors du monde, hein. C'est là où Ulysse risque de tomber, de ne jamais revenir, hein, d'où il risque de ne jamais revenir. C'est cet ailleurs. Mais c'est cet ailleurs qui n'est pas totalement ailleurs dans les hétérotopies. Il est chez nous, en fait. Il est parmi nous. Il est entre eux. Il est dans un petit espace en friche. Il est dans un lieu de transition, quand on passe une frontière, etc., etc. Et il s'est dit, ouais, quand même, c'est pas bien abouti mon affaire, enfin c'est comme ça qu'ils le disent, qu'ils le présentent, moi je trouve ça déjà très abouti, mais je vais quand même en parler. Et il a fait un essai qui s'appelle, je crois, Les Hétérotopies, ou Hétérotopies, je sais plus. Et effectivement, je m'en suis emparé, je l'ai proposé. Nous en sommes donc embarrés à Abiabo pour parler des friches. Et effectivement, on était dans des friches artistiques et on réfléchissait sur les lieux intermédiaires, etc., avec des gens que ça intéresse, bien sûr.
Rien à voir avec la friche, mais par contre, avec les prisons de Foucault, puisque je tiens à préciser que l'exposition d'Ernest Pignon-Ernest, qui avait commencé à la galerie AMR sur les pentes, sur les prisons,
oui,
Saint-Paul, se poursuit pour ceux qui veulent aller encore la voir.
Elle
est toujours d'actualité.
Tu as coupé notre invité qui était en train de...
Non, effectivement, j'étais...
C'était terminé
Dans un point possible... d'articulation.
Ah, il me semble le raisonnement de Foucault était abouti. Zut, faudra qu'on se réécoute tout à l'heure. Enfin bref, c'est toujours intéressant de faire éventuellement des digressions, mais il faut faire attention.
Le problème de la poésie, c'est que
ça entraîne,
ça brasse tout.
Oui.
L'univers entier.
Effectivement. Enfin, l'univers sensible, effectivement, que nous on peut percevoir. Enfin bref.
Gérald, tu proposes que nous écoutions quelque chose maintenant?
Un grand poète qui, lui, est assez génial parce qu'il est roumain, il est connu, il s'est suicidé à 70 ans en se jetant dans la Seine. Il a travaillé la matière de la langue, vraiment, comme matérialité, parce qu'il était roumain. C'est Gerasime Luca, dont on va écouter un très beau poème, passionnément. Donc il joue beaucoup avec la poésie, le langage, comme matière.
Je te parlerai d'un autre poète après. Oui. Vas-y, allons-y.
Voilà.
Passionnément. Pa. Le pas, pas, le faux pas, le pas, 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 le pas, le mot, le mauve, le mauvais pas, 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 le pas, le papa, le mauvais papa, le mauve, le pas, 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 passe, pas, pas, passe, 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 il passe, il pas, pas, il passe, le pas, du pape, sur le pape, du pas, du passe, 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 passi le sur le pas, le passi, 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 pisser sur le pape, sur papa, sur la pipe du papa, du pape, pisser en masse, passe, passe, passi, passe, passi, la passe, la basse, passi, passe, passi, la passion, passion, basson, le bas, le pas, passion, le basson, et pas, le basso, do, pas, 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 do, passe, passion, passion, do, ne domi, ne passi, ne dominez pas vos passions passives, ne dominez vos passions, vos si vos passions, ne do vos dominos d'or, c'est donc dommage, do, pas, pas, ne domi, pas, pas, passe, passion, vos pas, ne do, ne dominez pas, vos passes, passion, vos pas dévorants, ne dominez pas vos passions, ne dominez pas vos rations, passe, passion, minez pas vos passions, vos rations en ragoût de rat, dévorez-les, dominez pas cet avant-goût de ragoût de pas, de passe, de passi, de pasigraphie, graphifi, de fi, fifi, fena, fenakiki, fenakisti, coco, fenakisti, cop, fifi, fofo, fifi, photo, dodo, dominé, do, photo, mimé, fifi, photo, micrographie, vos goûts, c'est pou chorégraphique, fifi, de vos dégoûts, de vos dégâts, pas ça! Passion, passion de gars, coco, kistiko, gars, les dégâts, pas, les papas, passion, pas passion, passion, passionné, né, il est né de l'année, gaga, de l'année, ga, de l'année, gation, passion, gacra, crache, crachez sur vos nations, cra de la neige. Il est né passionné, né, il est né à la nage, à la rage. Il est né à l'année cronage, cra, rage. Il est né de l'année ga, néga, ga, cra, crachez de l'année, de la ga, pas néga, négation, passion, passionné, né, passionnem, je t'aime, passionnem, t'aime, je t'aime, je, passion, j'aime, passionné, aimer, émerger, pas, pas si, pas si, émersion, passion, passionné, je t'aime, passe, passion, oh, passion, ma gra, crachez sur les rations, ma grande, ma terrible passion, passionné, je t'ai, terrible passion, je t'aime passionnément.
Bah, a priori, il restait encore un petit peu de temps, Gérald, mais c'est vrai que c'est peut-être un blanc avant le poème suivant. Vous êtes
revenu
bien
à l'amour
sur Radio Canut et nous écoutions un instant Gerasim Luca, c'est ça qui...
Oui. Ou Gerasim Luca, d'origine roumaine.
Qui lisait lui-même son poème.
Il était très fort pour ça en public.
Très belle poème, oui.
Il lisait un instant.
Poète en rome, très intéressant.
Passionnément.
Qui a aussi publié beaucoup d'ouvrages.
Du coup, je voulais indiquer une poète à un poète d'origine hongroise, elle, qui s'appelle Kathleen Molnar, et qui a travaillé le français... en jouant sur le fait qu'elle est étrangère aux Français.
C'est leur privilège.
Et elle a fait une conférence pour les illettrés qui s'écrit conférence CONFERANS, donc il faut prononcer toutes les lettres. Et c'est assez difficile à lire parce qu'elle réinvente une sorte de français phonétique.
Mmh. Comme Dubuffet faisait aussi en son temps, et chez Sérac et d'autres.
Tout à fait, sachant qu'elle vient d'une langue où il y a d'autres règles de grammaire qui peuvent lui paraître à elle plus simples, bien sûr. Et on sait que, par exemple, toi, tu as des origines italiennes, mais bon, je ne sais pas, enfin, il paraît qu'en tout cas, l'italien, si tu veux, tu as très peu de possibilités de faire faute d'orthographe, parce que l'orthographe est d'une logique plus simple et plus immédiate. Et le français, c'est vrai que c'est compliqué.
Le français, c'est un vrai problème pour ceux qui l'apprennent. Oui, l'orthographe est terrible.
Oui, voilà.
J'ai un texte sous les yeux qui est assez compliqué, hein. Pierre Gonzalez, vous pourriez nous en parler, puisque je crois que vous en êtes l'auteur, un texte sur un mail qui se trouve sur le site Collab 5, un mail, disons, courrier électronique est là, et il n'est pas là. Ce n'est pas que le chat de Schrödinger en est une, d'adresse électronique, mais après tout, ce n'est pas que ce chat sache, en boîte, en sachet, prenne du thé, fumine du calumet. Non, un mail est là, un mail n'est pas là, et c'est le même mail emmêlé, mais je ne sais pas quel mail c'est, ni qui me l'a envoyé, me l'envoie, me l'enverra. Il manque toujours un temps au verbe être là, un temps, puis l'être au KM être, kilomètre. Si je ne regarde pas ma boîte de réception sur Internet, il est peut-être là. Si je regarde peut-être, il disparaît. Mais l'inverse est vrai aussi. D'ailleurs, je vais voir encore raté. Ton mail net, tu as lu plus tard, et c'est vraiment une révélation. Je m'aperçois que le chat, c'est moi. Et dès que le mail que j'attends, c'est celui censé décider alors que c'est moi. Et ça, c'est sûr. Qui décide enfin si je suis là ou pas, et qui décide aussi pour combien de temps. Mais pour ça, j'ai encore besoin de repos. Je dois tenter d'augmenter mon niveau de compréhension du phénomène. C'est un texte assez étrange.
On
Pierre Gonzalez, c'est vous l'auteur, c'est ça, de ce mail. Ce chat de Schrödinger. Allez, encore quelques minutes
Christophe
pour parler,
Rollin
de, pour parler
de, un texte de Pierre Gonzalez,
de poésie.
Très brillamment.
Peut-être que Pierre Gonzalez va aussi nous lire un texte en direct de son choix.
Oui, pourquoi pas.
Puisqu'on tient un poète,
il faut finir l'émission. À moins qu'on écoute Bernard Heidsieck, il y a tellement de poètes intéressants.
C'est sûr.
Le poète lettriste Bernard Heidsieck aussi.
Oui, donc On a un petit peu improvisé l'émission, mais c'est
pas du tout comme d'habitude. On a été préparé depuis des semaines et des semaines.
Je peux essayer de vous lire un peu quelque chose. J'ai amené un petit peu différentes petites choses. Peut-être quelque chose qu'on a fait il y a très longtemps, on va dire. Enfin, à la Friche Hervéilly d'ailleurs, et avec un pyrotechnicien cette fois-ci. C'est-à-dire que nous avions à la pyrotechnie maître Xtoff hein, qui nous faisait des petites choses qui n'auraient pas pu passer la commission de sécurité. Et c'était donc bien que ça soit une lecture un peu pirate.
Pirate technique, c'est
à valeur de feu en prime. Hein. Pyrotechnicien et avaleur de feu ou...
Non, pas du tout.
C'était un pirate technicien, c'est ça.
Il est en fait pyrotechnicien pour de vrai, mais là, c'était des choses qu'il avait bricolées et c'était assez difficile. Ou alors, il faut être vraiment dans des gros trucs, tu vois, où on est sûr de pouvoir passer les commissions de sécurité avec quelques exceptions et un cordon, bien sûr, de sécurité. Important, ça se comprend parce que dans sa performance, dans notre performance, il y avait des bouteilles de gaz qui étaient percées par de la soudure de rail de TGV. un effet pyrotechnique qui arrive à souder les rails de TGV qu'ils utilisent. Et effectivement, il y avait quelques beaux effets avec des petites bouteilles de gaz, hein, soyons quand même. Qui du coup... percer et s'enflammer. Il fallait que la poudre résiste à ce moment de froid intense quand la bouteille se perçait, le souffle du gaz, et après elle faisait des assez jolies flammes dans un périmètre qui était néanmoins sécurisé. Nous avions fait les choses très sérieusement.
Voilà, alors ça c'est une narration, c'est enfin voilà, quelque chose qui s'est passé. Nous allons maintenant assister en direct à une lecture. Il faudra ensuite que nous demandions à Pierre où nous pourrions l'entendre prochainement se produire, ou bien comment le lire. Je crois que ce livre CD plus d'amour et moins de travail papier, il me semble que ça peut se commander, c'est ça? Enfin, il y a une boutique sur internet.
Il est aussi puisque nous sommes à Radio Canu, je pense que certains vont parfois à la librairie de la Griffe. Il est également à la librairie de la Griffe. La Griffe, pas très loin de chez moi d'ailleurs. Donc, la vérité sur Vincent Van Gogh. Je vous le ferai pas au mégaphone, hein, parce que c'était au mégaphone à l'époque.
C'est un extrait.
C'est un extrait. Van Gogh's Anti-Insanity Lemon Tonic. Je ferai aussi des petits commentaires. On voit là, en amour du franglais. Un cocktail artiste pour... Se préparer calmement. Les degrés de la vibration. VVG is well regarded as one of the greatest and most famous artists ever. His life and work has inspired and influenced much of art history since his tragic death in 1890. In fact, Van Gogh's Anti-Insanity Lemon Tonic. L'été sera chaud. Là, imaginez une explosion de petites bouteilles de gaz, je le précise. Avec des flammes, tout ça dans la nuit, hein, bien sûr. Voici une citronnade qui va au-delà de la dimension Prozac. Des coups de pinceau de liqueur de cassis ou de framboise, du sirop teinté de citron, de la vodka cristalline et du citron pressé brumeux. Le tout mélangé dans un grand verre. Il semblerait que Van Gogh se faisait des cocktails un peu plus relevés, ce qui expliquerait une partie de ses problèmes. En agençant les couches de ce cocktail, vous révélerez l'artiste qui est en vous. L'été sera chaud. Siroté par le fond, Hot Summer Campaign, Hot Summer Xtoff, Hot Summer Pégonze, Hot Summer Poetry. Imaginez la chaleur, imaginez la soif, imaginez l'accablement. La vérité sur Vincent Van Gogh. Imaginez la chaleur, imaginez la soif, imaginez l'accablement. Je m'arrête là. Parce qu'après, il y a des insultes et tout.
Ah,
même sur Radio Canu quand même.
Ah bon ?
Merci Pierre Gonzalez pour une lecture poétique, poétique même, pourrions-nous presque l'écrire. Donc voilà, y a-t-il des rendez-vous prochains à venir? Enfin, est-ce que on n'a pas posé cette question tout à l'heure? Normalement, l'invité est là pour une actualité spectaculaire ou une actualité culturelle. Est-ce que vous, ces temps-ci, est-ce qu'il y a quelque chose que C'est pas une publication, un projet envisagé.
Voilà, des projets, beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Voilà, des projets, des publications,
court,
si,
long,
je sais,
moyen terme.
Si je sais m'y tenir. Un assez beau projet entre deux murs qui a une base cosmologique un peu ambitieuse, hein, puisqu'il s'agit de parler en même temps... disons, d'évoquer le début de la création de l'univers et le possible arrêt pour nous dans quelques décennies pour notre civilisation.
Si l'on en croit certains experts, oui.
Si on en croit certaines difficultés exponentielles que nous avons créées, etc. Et ce texte, si il est bien monté, s'il est déjà largement entamé, il y a des chances qu'il soit monté très rapidement en spectacle et peut-être diffusé carrément dans le cadre d'un festival en Chine. Donc c'est plutôt sympathique comme perspective, on va dire. Mmh. Et puis beaucoup d'autres choses en préparation.
C'est la Chine qui est évoquée, c'est ça ? Est-ce que c'est parce que du public ou des gens auraient pu dire mais ce que vous dites, ce que vous faites, c'est du chinois, c'est ça ? Non.
C'est parce qu'effectivement, il est temps que je me confronte aux chinois.
Un peu de sinologie.
Peut-être.
C'est bien. Enfin, du moins, parce que moi, je pensais à un lieu bien plus proche. Est-ce qu'il vous arrive de vous rendre aux subsistances, par exemple ? Est-ce que c'est un lieu qui Non, d'accord. Voilà. Donc, question suivante.
Il va falloir attendre le printemps alors des poètes auquel vous participez peut-être.
Certainement. Oui. Il n'y a rien encore de programmé, mais il faudrait s'y mettre. Pour les subsistances, ma foi, il faudrait. Que peut-être on les assiège plus souvent. Enfin bref, là, ça nous entraîne dans d'autres questions.
Bon. Gérald, on écoute encore quelque chose ou
Pour finir l'émission, pourquoi pas ? Un petit Bernard Haitzig, peut-être ?
Allez,
pour finir.
Très bien, ça. Oui.
Et ben voilà.
Oui.
On va mettre. Donc, c'est un livre CD hein, de. Alors Bernard Haitzig,
voilà,
le grand poète lettriste.
Pas avec l'ordinateur, mais avec les magnétophones. Beaucoup.
Voilà, beaucoup de magnétophones. Édition Le Bleu du Ciel, partition 5. Il a écrit beaucoup de partitions.
Hein. Ouais.
Elle, c'est la cinquième. Le poème, dit Bernard Haitzig, fait ainsi sa rentrée dans le monde avec le souci et le but de susciter une communication immédiate, physique et charnelle, ce qui n'interdit pas de donner la trace imprimée de la partition, entre guillemets, mais comme on le ferait précisément d'une partition musicale et instrumentale. Extrait de la quatrième de couverture de la première édition, Soleil Noir 1973. Texte de Gérald Gassiot-Talabo. Cette réédition permet à nouveau d'entendre et de lire ces pièces historiques devenues introuvables que l'auteur n'a jamais cessé de produire en public depuis 30 ans, tant en France qu'à l'étranger.
Un poète important. La poésie sonore est mort il n'y a pas très longtemps.
Et oui.
La convention collective, poème partition.
Lorsqu'une fête légale toutefois tombe un vendredi ou un mardi, le samedi qui suit cette fête ou le lundi qui la précède ne sont pas décomptés comme jours ouvrables. Juin 1965.
Et voilà. Et voilà, c'est tout. C'était j'embredouille, je ne sais même pas que dire.
C'était vachement sympa, non ?
Ouais, voilà, exactement. C'est comme ça qu'on peut parler. Peut-être ce qu'on pourrait faire, Gérald, c'est je vois Pascal qui trépigne, le blues des canuts est fin prêt. Je pourrais peut-être évoquer les autres émissions à venir cet après-midi. Est-ce qu'il y a tout à l'heure Son Bâtard à 16h ou 17h, c'est possible. Le méga combi à 19h, ça c'est certain. Oui, Son Bâtard aura bien lieu avec Loïc tout à l'heure. L'horaire, je crois que c'est 16h. Il y a également méga combi à 18h, KNU Info à 19h. Et puis, tant qu'à évoquer des programmes à venir, on peut peut-être évoquer des programmes passés. Il me semble des programmes anciens. Oui. Il me semble Pierre Gonzalez.
Ah oui, j'aimerais rendre un petit hommage à Franck Pollet qui, je crois, a
sévi,
animateur sur cette radio et qui était un fervent auditeur de concerts expérimentaux qui enregistrait parfois au premier rang avec son petit enregistreur des choses qui ont certainement disparu et dont personne n'a d'archives. Et
vous en parlez à l'imparfait
parce qu'il est mort parce qu'il est parti en Afrique et qu'il a chopé le paludisme et qu'il s'est pas soigné, il est mort d'épuisement le pauvre, et c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à lui rendre un hommage à Franck parce que il avait toute une collection de cassettes qui sont à peu près toutes perdues, mais en reste quelques-unes et voilà. tout le monde s'en foutait, c'est dommage.
Bon, on va terminer encore sur un hommage. Je vais remettre la voix de Bowie qui chante I'm Deranged, et puis on va clore l'émission, hein, Gérald, parce que je crois qu'on...
Et la semaine prochaine ?
On a tout dit. Semaine prochaine, en attendant Godot, avec peut-être Laurent Fréchuret, c'est mise en scène au théâtre de la Croix-Rousse. Et puis voilà, il y a Quartet que tu vas aller voir aussi, peut-être que tu as deux, trois choses à dire. Allez, on lance Bowie, et puis on se dit au revoir. Vous allez voir, c'est très
allez,
beau cette voix. Attends, une
merci,
seconde.
Merci, Pierre Gonzalez.
Bon, alors voilà, tout à fait. Disons-nous au revoir, à la semaine prochaine.
On
dit
au revoir.
Voilà, on se dit au revoir maintenant. Au revoir, et puis, on écoute Bowie. Pas de Massive Attack pour terminer. Pas de collectif. Voilà. Au revoir tout le monde. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Et puis ciao, David Bowie. C'était un grand quand même. C'était un grand. Je me trompe. J'étais en train de remettre Bernard Haitzik. Non, David Bowie. Et on se dit au revoir.
Funny how secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. In sky the man chains his hands held high. The cruise is yours.